Vous écoutez
RMC.
Jeudi 18 août,
l'info sur RMC.
Il est 7h sur RMC, soyez tous les bienvenus tout de suite, le journal Alexandra Sirgan. Bonjour Alexandra.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. 2200 interpellations depuis le début de l'année. Alors que le gouvernement serre la vis pour lutter contre les rodéos urbains, il existe des stages de prévention. Reportage à suivre. Un premier cas mondial de transmission de la variole du singe d'un humain vers un chien détecté, et c'est à Paris. Et les championnats européens d'athlétisme à Munich, la France a quelques millimètres seulement de l'or aux 110 mètres et...
On vous en parle depuis plusieurs jours déjà, les rodéos urbains meurtriers se multiplient cet été.
Un jeune homme de 19 ans décédé hier, il y a deux jours à Marseille, alors qu'il faisait une roue arrière sur sa moto. La fillette de 7 ans, percutée la semaine dernière par un motard à Pontoise, est toujours hospitalisée. Alors depuis quelques jours, le gouvernement hausse le ton sur le sujet. Consigne a été passée à chaque commissariat par le ministère de l'Intérieur de mener au moins 3 opérations anti-rodéo par jour. Sur le terrain, certains privilégient la prévention au contrôle. À Évreux, des éducateurs sociaux proposent même une semaine de sensibilisation pour apprendre aux jeunes les bonnes pratiques de la motocross. Nicolas Trénaud y était pour RMC.
Dans le quartier de la Madeleine, où les courses sauvages de moto sont une tradition, les éducateurs de rue retrouvent Yanis, un jeune de 17 ans qu'ils connaissent bien. Ils l'ont accompagné cet été une semaine en stage anti-rodéo urbain pour apprendre aux adolescents les bonnes pratiques de la moto.
Depuis qu'on est petit, on voit les gens faire de la moto, lever, lâcher les mains, c'est stylé.
Et après cette semaine, est-ce que tu penses toujours la même chose?
Si demain j'ai une moto au quartier qu'on me propose, je vais en faire. Je vais pas mentir, mais j'ai compris qu'il y a des risques, qu'il faut pas se mettre en danger bêtement.
Pour bénéficier de ce stage financé à 80% par l'État, les jeunes doivent s'engager dans des chantiers participatifs, précise la chef de ces éducateurs.
C'est pas des vacances, c'est pas non plus une récompense.
Chaque semaine de stage, 7 jeunes issus de toute la France sont envoyés avec leurs éducateurs à Chalon-sur-Saône auprès du fondateur Aimé Bacop au programme Rencontre avec des policiers ou des pompiers et pratique de la motocross.
On a vu que 30% des jeunes qui étaient tués sur la route ou qui avaient des accidents grave, c'est des jeunes qui n'avaient pas la maîtrise du deux roues. Donc ici, il y a des professionnels qui aident les jeunes dans la prise en charge d'un véhicule deux roues.
La réflexion se poursuit après le stage avec les éducateurs de rue.
Alors que pensez-vous de ces actions de sensibilisation au-delà de la répression? Est-ce qu'il faut aussi de la prévention pour lutter contre ces rodéos? On en parle tous ensemble, on en débat au 32-16. On vous donnera d'autres exemples d'actions de prévention à 7h40 avec mes invités. Et puis à 8h10, vous pourrez dialoguer avec un policier. 32-16, l'application RMC pour toutes vos réactions.
RMC 7h03, l'autre grand titre de l'actualité, c'est cette météo instable des derniers jours. Des violents orages ont frappé les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. D'importantes averses aussi dans la région lyonnaise où des centaines de foyers étaient privés d'électricité hier soir. À Fézin, l'eau du Rhône est montée très rapidement, inondant maisons, magasins et appartements. Les habitants de la commune comme Sherazade ont dû faire preuve de solidarité.
On a eu une grosse chute de pluie, des grêlons qui tombaient de ci, de là. Et puis d'un coup, on a vu l'eau monter. Et on a des appartements au rez-de-chaussée, moi qui suis locataire d'un appartement au rez-de-chaussée, qui sont complètement inondés au niveau des terrasses. On est en train d'évacuer avec les locataires. Donc on a ouvert les plaques d'égout dans les rues. La société solidaire, à coup de raclette. Hein, malheureusement, on est livré à nous-mêmes. On est en train de pomper les garages, pomper toute l'eau qui est en train de remonter. On a peur que cet épisode se reproduise, parce que des fortes pluies sont annoncées encore. On ne peut pas se préparer à ce genre d'événement.
Et des pluies sont encore prévues cet après-midi dans la vallée du Rhône et les Alpes. Et ce matin, seules les Pyrénées-Atlantiques sont placées en vigilance orange, pluie, inondation. Une météo aussi peu clémente en Algérie où des incendies ravagent le pays ces dernières semaines. 30 personnes sont décédées depuis le début de l'été, dont 26 hier. Des dizaines de personnes sont blessées. 39 incendies sont en cours selon la protection civile.
C'est une information RMC qu'on vous donne à 7h04. L'inventeur de l'assurance pour le téléphone mobile, le groupe Indexia, va être jugé ainsi que son fondateur.
Oui, on vous en parlait en février. Des centaines de clients ont remarqué des prélèvements abusifs sur leur compte en banque et impossible pour eux de résilier leur contrat d'assurance. Aujourd'hui, l'ancien SFAM et son fondateur sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris pour pratiques commerciales et trompeuses. Johanna Chabas se renvoie au tribunal et la conséquence d'une investigation de la répression des fraudes.
Oui, après des centaines de signalements de consommateurs, la répression des fraudes a mené l'enquête plusieurs mois sur les pratiques du groupe Indexia, l'ex-SFAM. Elle a constaté des faits qu'elle juge particulièrement graves, au point de transmettre ses conclusions à la procureure de la République de Paris. Et c'est dans ce cadre que le groupe Indexia et son fondateur Sadri Fegaye sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Paris. Cela signifie que le parquet a considéré qu'il y avait suffisamment d'éléments pour que l'affaire soit jugée. RMC l'a appris à Emma Leotti, l'avocate de dizaines de consommateurs. Pour elle, c'est un soulagement.
C'est clairement un motif d'espoir. Mes clients, ils interviendraient en qualité de partie civile. Mes clients pourront demander la réparation de leurs préjudices financiers qui perdurent pour certains d'entre eux depuis plusieurs années. Et puis, ils pourront aussi demander la réparation de leurs préjudices moraux liés au stress.
La SFAM a déjà été sanctionnée en 2019 pour pratiques commerciales trompeuses. Elle a payé une amende de 10 millions d'euros à la répression des fraudes. Mais manifestement, le groupe n'aurait pas cessé ses mauvaises actions. Cette fois-ci, c'est la justice pénale qui va trancher.
Nouvelle alerte de l'OMS concernant la variole du singe. En juin dernier à Paris, un cas de transmission d'un humain vers un chien a été détecté. Une première, Romain Houg.
C'est au début du mois de juin dernier que les deux hommes sont testés positifs à la variole du singe. Une dizaine de jours plus tard, ils remarquent que leur chien, un lévrier, commence à présenter lui aussi des symptômes, des lésions cutanées. Un test est alors réalisé. Verdict, le chien a été contaminé à la variole du singe par ses maîtres. Alors, l'OMS assure que les animaux de compagnie ne sont pas un risque, mais invite tout de même à la vigilance, notamment sur la gestion des déchets des personnes contaminées. Tout simplement pour éviter que des rongeurs, comme des rats par exemple, ne soit infecté, car lorsque le virus circule rapidement dans une population animale dense, il peut vite évoluer et donc muter vers des formes potentiellement plus dangereuses.
Pour rappel, plus de 2700 cas ont été détectés en France. C'était la chef des Républicains anti-Trump, Liz Cheney, perd son siège à la Chambre des représentants après avoir été battue hier lors de la primaire d'investiture de son parti dans le Wyoming. Elle a perdu face à la candidate soutenue par l'ancien président. Donald Trump laisse encore planer le doute autour de sa candidature en 2024.
7h07 sur RMC, on en vient à ces trois nouvelles médailles au championnat d'Europe d'athlétisme à Munich.
Oui, dont deux aux 110 mètres et l'argent et le bronze. Le vice-champion européen Pascal Martino Lagarde était à quelques millimètres de l'or, suivi par le jeune Juste Kouaou Maté, un podium aux deux tiers français. Image d'une France glorieuse sur les 110 mètres et Aurélien Tiercin.
L'histoire d'amour entre la France et le 110 mètres haies est loin d'être terminée. Après Guy Druth, après Ladji Doucouré, Pascal Martino Lagarde continue d'écrire sa légende. Après l'or à Berlin il y a 4 ans, il est en argent cette fois pour un petit millième de retard sur l'Espagnol Martinez.
C'est rien de chez rien, de chez rien. On parle même pas de performance, on parle limite de chance. Aucune déception, j'ai tout donné, j'ai tout essayé. Et aujourd'hui...
Le multimédaillé Martino Lagarde sera donc sur le podium avec Juste Kouaou Maté, gamin de 21 ans, en bronze, en plein rêve à Munich.
Avec le drapeau, c'était incroyable. J'ai le tour d'honneur, je ne voulais pas m'arrêter. C'est incroyable de faire une médaille avec un autre Français. J'aurais aimé aussi Sacha passe une médaille, mais c'est dommage. En tout cas, c'est incroyable.
Sacha Zoya, c'était le phénomène annoncé. Il est lui tombé pendant la course et termine dernier, mais il garde le sourire.
Franchement, je suis très très content pour les comme il y a deux Français, parce qu'il y avait l'autre Espagnol. Et je suis content quand on l'a sorti, on a mis deux Français sur le podium, comme ça montre que les haies, c'est un truc français.
Pas encore de titre européen pour les Bleus à Munich, mais grâce à ce 110 mètres haies, le compteur affiche désormais 4 médailles ce matin.
Et puis la troisième médaille, c'est du bronze pour Jean-Marc Ponviane en triple saut.
7h08, c'était le journal d'Alexandra Sirgan sur RMC. Le débat, ça vous fait beaucoup réagir, les rodéos urbains, comment mieux lutter contre ces fléaux dans les quartiers. Thierry est avec nous au 32-16. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Alors c'est très intéressant de vous avoir en direct ce matin Thierry, parce que vous êtes vous-même policier en Île-de-France. Vous intervenez sur ce genre de rodéo, c'est le quotidien des policiers en ce moment ?
Oui, c'est fréquent. Bon, après c'est pas que en ce moment, hein. C'est quand même récurrent dans toutes les grandes villes, dans toutes les banlieues. C'est toute l'année. Là on en parle parce qu'effectivement il y a des incidents graves qui se passent, mais c'est toute l'année comme ça, quoi.
C'est toute l'année. On a l'impression que les autorités, que les policiers sont assez impuissants.
Effectivement, quand on annonce une prise en charge d'un véhicule de roue qui multiplie les infractions, qui fait un délit de fuite, un refus d'obtempérer, qui manque de renverser des personnes, sur les ondes radio, on nous demande de cesser la chasse immédiatement, quoi. L'état-major reçoit des ordres du gouvernement.
On vous demande de ne pas intervenir, quoi. On vous demande
Exactement. Ouais. On nous demande de cesser la chasse parce que si l'individu vient à se gameler ou à se tuer, ça va être de notre faute, en fait.
Et est-ce que là, ces derniers jours, je ne sais pas si vous êtes au travail en ce moment ou si vous êtes en congé, Thierry, mais est-ce que ces derniers jours, les directives ont changé puisqu'on voit le ministre de l'Intérieur un peu montrer les muscles sur ces questions?
Ah non, pour l'instant, moi et mes collègues, on n'a pas reçu d'instruction particulière concernant ça. Hein. Ça, c'est d'actualité pour l'instant. Le gouvernement en parle, mais nous, on n'a reçu aucune directive.
Et la consigne des 3 contrôles par jour au commissariat, ça va être très précis, il va falloir y aller 3 fois par jour.
Ouais, bon, après, le nombre de contrôles, peu importe, ça servira toujours à rien. Je veux dire, on peut contrôler le nombre de personnes qu'on veut. Déjà, il faut pouvoir les intercepter, déjà. Ouais. Parce que quand vous prenez en charge un deux-roues qui fait des sens interdits, qui monte sur les trottoirs, c'est assez compliqué de pouvoir les rattraper. Donc, même si on multiplie les contrôles, ça ne servira à rien. On va en choper 2/10. Et auquel cas, bon, ils n'auront rien. Hein. Généralement, si on n'arrive pas à choper le conducteur, l'engin, on va le saisir, il va être armé dans le commissariat. Et puis... le propriétaire de l'engin pourra revenir récupérer sa machine avec les papiers en règle. Donc qu'est-ce que vous voulez faire de plus, en fait? C'est ça qui est compliqué.
Il y a une forme d'impuissance. Et là, la sensibilisation, la prévention, puisqu'on voyait ce reportage avec des associations qui essayent de trouver des espaces pour que ces jeunes puissent aller faire leur rodéo ailleurs que dans les quartiers, ou des stages de moto pour leur apprendre les règles de sécurité, etc. Vous en pensez quoi? Il faut aussi agir là-dessus?
Ouais, je pense que c'est pas mal. Mais après, on sait très bien maintenant que les jeunes de maintenant, ils savent très bien ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas. Ils savent très bien que la drogue, c'est pas bien. Ils savent très bien que faire du rodéo avec un engin, c'est pas bien. Je veux dire, les stages, oui, c'est bien, mais ça changera pas la donne. Et ça changera pas du tout la donne.
Parce qu'ils cherchent justement à braver l'interdit, à les provoquer?
Ah, bien sûr, ouais. Bien sûr.
Merci pour votre témoignage, Thierry. Je rappelle que vous êtes policier vous-même en Île-de-France, confronté à ces rodéos urbains. On va en reparler à 7h40 avec notamment un associatif qui propose ce genre de stage. Il nous dira si ça fonctionne. Et puis à 8h10, vous pourrez dialoguer avec un policier au 32-16. L'application RMC également pour toutes vos réactions. Il est 7h12.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans un instant sur RMC, le témoin du jour va nous dire ce qu'il se passe avec les caisses de retraite. Jusqu'à 6 mois de retard dans le traitement des dossiers. On sera avec Florence Puget, secrétaire nationale CFDT, protection sociale, travail et emploi, pour en parler. Elle va nous parler justement des coupes dans les effectifs. C'est le problème selon elle, et c'est à suivre dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
7h14 sur RMC et sur RMC Story.
Le témoin du jour.
Le témoin du jour, c'est vous, Florence Puget. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la secrétaire nationale de la CFDT, secteur protection sociale, travail et emploi. Et vous alertez sur la situation des caisses de retraite qui sont en surchauffe, les services débordés, avec des conséquences très concrètes pour les retraités. Des mois de retard dans le versement de certaines pensions. Qu'est-ce qui se passe dans les caisses de retraite?
Oui, effectivement, la CFDT a alerté, et cela fait plusieurs mois qu'elle alerte, d'une situation de plus en plus importante sur une augmentation, effectivement, des retards sur des dossiers.
Alors, combien de retards?
Alors, sur les retards, c'est particulier parce qu'il y a plusieurs types de dossiers. Ceux qui sont aujourd'hui les plus impactés, ce sont les dossiers pour, on va dire, les publics fragiles. Je vais prendre un exemple, l'allocation solidarité aux personnes âgées, qui sont donc pour des retraités ayant de faibles ressources. Aujourd'hui, un tiers des dossiers sont réceptionnés et traités avec plus de 3 mois de retard. Et dans certaines caisses de retraite, dont je vais prendre un exemple, la caisse de retraite des Pays de Loire, ça peut aller jusqu'à 6 mois de retard.
Ah oui, jusqu'à 6 mois de retard pour en plus des personnes qui sont, vous le dites, les plus démunies.
Oui, c'est, tout
on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas traiter en priorité les dossiers des plus démunis.
Mais on traite, il faut traiter tous les dossiers. Alors, ceux-là, c'est un exemple parce que ceux-là, c'est les plus percutants, je dirais. Mais effectivement, on peut y avoir aussi des retards sur des pensions de retraite pour des carrières normales, on va dire. Hein. Mais on a aussi, comme je disais, aussi les pensions de reversion, c'est-à-dire pour les personnes veuves qui attendent une pension de reversion. Là aussi, hein, nous avons des caisses où il y a 4 à 5 mois de retard.
Qu'est-ce qui pose problème ? Pourquoi les services sont débordés ?
Alors, il y a plusieurs problèmes. Un, le problème de la hausse des dossiers reçus. Alors ça, c'est naturel, c'est la démographie, c'est ce qu'on appelle le papy boom. Hein. Chaque année, 3% de dossiers en plus. Le deuxième, c'est les effectifs en face pour traiter tous ces dossiers. Depuis 2017, et bien avant d'ailleurs, nous connaissons des baisses importantes dans les caisses de retraite d'effectifs. Aujourd'hui, il y a moins de salariés pour traiter plus de retraités. Un exemple, en 2017, 14 800 salariés pour gérer environ 16 millions de retraités. Aujourd'hui, 13 700 salariés pour gérer presque 17 millions de retraités.
Et on n'a pas progressé, on n'a pas modernisé la procédure avec le numérique, on n'arrive pas à traiter plus facilement, plus vite, y compris avec moins de gens.
Alors, oui, et pourquoi les effectifs baissent aussi ? Parce que l'objectif, c'était d'avoir des outils informatiques plus performants, plus modernes, effectivement. Sauf qu'aujourd'hui, l'outil qui a été mis en place, ce qu'on appelle l'outil de régularisation de carrière, hein, qui permet justement de reconstituer ses carrières et de calculer les pensions de retraite, n'est pas opérationnel à 100% aujourd'hui. Il n'arrive pas à absorber le nombre de retraités, puisque c'est très important. Je vous l'ai dit, il a augmenté. Et cet outil, aujourd'hui, n'est pas opérationnel pour absorber ce nombre de retraités. Et du coup, il ne priorise pas les dossiers qu'il faudrait prioriser. Voilà, en gros, je résume comme ça.
Ouais, mais... Ce qui fait que, du coup, on le disait, les plus démunis sont ceux qui connaissent le plus de retard. Il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres ?
Pays de Loire est pas mal, assez touché. On a aussi la Bretagne, hein, puis on en a d'autres. On a Marseille aussi qui sont touchés. On a aussi le Nord. Bon, c'est assez, voilà, il y a quand même pas mal de caisses de retraite qui sont touchées. Des problématiques, on en a sur toutes les caisses de retraite, mais à des degrés divers. Après, on a aussi la problématique, et ça aussi c'est important. Bon, c'est le tout numérique. Aujourd'hui, le tout numérique, c'est comme partout, ça a ses limites. Et là-dessus aussi, ça fragilise. C'est les publics fragilisés qui sont les plus touchés parce que c'est eux qui ont le moins accès aussi au tout numérique.
Qu'est-ce que vous conseillez, Florence Puget, à ceux qui nous écoutent et qui pourraient être affectés par ces retards ? Si on appelle, si on se manifeste, est-ce qu'on peut faire un peu accélérer les choses ou ça ne sert absolument à rien ?
Ah si, ça sert, de toute manière, effectivement, il faut réagir. Pour effectivement les publics fragilisés, il y a tout ce qu'il peut y avoir autour de ces personnes-là, d'associations, d'aides qui peuvent être portées pour les accompagner. Il y a les maisons France Service aussi, hein, qui peuvent être contactées. Bien sûr que malgré tout, les caisses de retraite répondent aux demandes, mais c'est les délais qui sont longs. Mais il faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à déposer ces dossiers les plus tôt possible, hein, ça c'est clair.
Donc si on approche de la retraite, on prend de l'avance ?
Il faut normalement, vous pouvez les déposer 4 mois avant, il faut le faire. Malgré ça, il peut y avoir du retard parce que derrière, il y a quand même malgré tout ce problème d'effectif qui pour nous est important parce que comme l'outil n'est pas 100% opérationnel, mais si malgré tout il fonctionne en partie, ça demande des traitements de dossiers qui parfois ne sont pas automatisés et de fait ça demande plus d'intervention humaine.
Des retards 3 à 6 mois notamment pour les nouveaux retraités, les bénéficiaires des minima, du minimum vieillesse. Et des pensions de reversion. Merci pour ces précisions ce matin. Florence Puget, secrétaire nationale de la CFDT dans le secteur de la protection sociale. Merci d'avoir précisé les choses ce matin sur RMC. Il est
7h20. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
À suivre dans 20 minutes sur RMC. Quelle solution face au fléau des rodéos urbains ? Le gouvernement annonce davantage de contrôles, mais est-ce suffisant ? La répression est-elle réellement efficace ? Dans certains quartiers, des associations tentent de trouver des solutions et organisent des stages de sensibilisation pour encadrer la pratique de la moto. On va en parler avec votre invité, Sébastien.
Oui, même deux invités. Même ce matin, on sera à Vaux-en-Velin, près de Lyon, avec Mehdi Ben Safi qui organise avec son association des stages de motocross pour essayer essayer de canaliser les choses. Il nous dira si ça fonctionne. Et on sera avec Sébastien Poirier, le président de la Fédération française de motocyclisme. Pour eux, il faut des alternatives dans cette lutte contre les rodéos. Et on vous attend au 32-16 pour réagir. Avant cela, direction la Provence pour aller découvrir la fabrication du savon de Marseille. C'est notre reportage du jour chez les artisans de nos régions.
Et puis, il y aura évidemment aussi la Story Sport avec Léna Marjac qui va nous raconter le prochain sommet de la boxe. Il va opposer l'Américain Anthony Joshua à l'Ukrainien Oleksandr Usyk qui revient de la guerre en Ukraine. Ça se passe samedi et ce sera dans la Story Sport.
A tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Bienvenue à tous, 7h23 sur RMC.
Les artisans de nos régions.
Et on continue la découverte des savoir-faire de nos régions. Ce matin, nous allons en Provence, à la découverte du fameux savon de Marseille. Reportage dans la plus vieille savonnerie de la ville, la savonnerie du fer à cheval. C'est sur le site historique de Sainte-Marthe, au cœur des quartiers nord. Estelle Henry.
Il faut d'abord monter de petits escaliers derrière notre guide, Stéphanie Guilbeau, directrice marketing de la marque, pour apprécier le spectacle. Car tout se joue à une dizaine de mètres du sol, dans sept chaudrons bouillonnants, sous une toiture en châtaignier classée monument historique.
Ici, on est en haut de la salle des chaudrons, là où nos maîtres savonniers surveillent les chaudrons comme le lait sur le feu. Un procédé qui prend 8 à 10 jours pour fabriquer par chaudron 15 tonnes de savon.
Une fabrication grâce à un procédé chimique ancestral bien connu, la saponification, selon une recette en 5 étapes établie sous Louis XIV pour éviter les contrefaçons.
On a mis 10 tonnes d'huile d'olive, de l'eau et de la soude. On a saponifié les huiles qui se sont transformées donc en savon. C'est la première étape. Puis en deuxième étape, on va venir commencer à mettre à ébullition pour que les huiles se saponifient. Premier rinçage à l'eau pour pouvoir enlever les impuretés. Puis dernière étape, on va venir liquider la pâte. Donc on fait un dernier rinçage à l'eau claire pour encore une fois enlever toutes les impuretés, ne garder que le savon.
Une recette dont les maîtres savonniers, véritables artisans de la savonnerie, sont les garants. Stéphane Bucaro, maître savonnier depuis 2 ans.
C'est un très beau métier. C'est le travail en lui-même, le savoir-faire qui fait que c'est un plaisir à travailler, quoi. C'est jamais la même chose, c'est toujours différent. Beaucoup de surveillance, tous les jours ça change.
Une fois la pâte à savon réalisée, direction l'atelier de moulage où elle prend d'abord l'apparence de petits granulés appelés bondillons.
Ici on voit le bondillon de savon de Marseille, donc la pâte a complètement séché. Et elle va ensuite passer dans la deuxième partie pour le moulage.
Et c'est la boudineuse qui assure cette partie où les granulés sont compressés et moulés. Reste ensuite à couper, emballer et charger les savons sur des palettes où ils seront soit expédiés vers l'étranger, soit vendus en France en boutique, mais pas n'importe lesquels. Raphaël Seguin, président de la savonnerie du fer à cheval depuis 2013.
Principalement, pour nous retrouver dans ce qu'on appelle les revendeurs, donc ça peut être des épiceries, des boutiques déco, des quincailleries. On n'est pas en supermarché, c'est un choix. On estime que notre produit un certain positionnement et il doit être reconnu. Et puis c'est surtout, c'est un produit qui nécessite un peu de vente assistée. Certains connaissent le savon Marseille parce que ça nous rappelle notre enfance, parce que notre maman, notre grand-mère l'utilisait. D'autres, il faut un peu leur expliquer pourquoi. On estime que pour pouvoir rassurer nos consommateurs, nos clients potentiels, il faut aussi qu'on puisse avoir des alliés locaux, donc des vendeurs qui puissent expliquer un peu les bienfaits de ce produit.
Et pour bien différencier le vrai savon de Marseille du faux, les maîtres savonniers des 5 dernières savonneries artisanales de Provence ont décidé de se regrouper en fédération, l'Union des professionnels du savon de Marseille. Leur logo, apposé sur chaque savon, garantit la provenance et le procédé de fabrication.
Voilà, Estelle Henry à Marseille. Puis c'est que des produits naturels.
J'adore.
Le savon de Marseille, vous pouvez aller...
En plus, c'est très joli.
Ouais, c'est très beau.
C'est très joli et puis c'est très efficace.
Voilà, ça sent bon dans les placards aussi. Vous pouvez aller visiter les ateliers de cette savonnerie à Marseille. C'est ouvert au public, 7h27.
La Story Sport.
La Story Sport avec Léna Marjac. Bonjour Léna.
Bonjour Sébastien.
Direction Jeddah ce matin en Arabie Saoudite où se tiendra samedi un combat de boxe entre l'Ukrainien Oleksandr Usyk et le Britannique Anthony Joshua. L'Ukrainien qui signe son grand retour sur le ring après avoir pris les armes au début de la guerre dans son pays. Et hier en conférence de presse, il s'est fait remarquer.
Oui, par sa tenue, l'Ukrainien de 35 ans est arrivé en habit traditionnel de son pays. Sorte de manteau noir sur une chemise blanche brodée, physique de guerrier, 1m91, moustache blonde et petite mèche sur le haut de son crâne rasé. Comme chaque conférence de presse, elle se termine par un face-à-face. Les deux hommes se regardent, les yeux dans les yeux pendant quelques minutes. Usyk, lui, est ensuite resté sur scène pour entonner un chant patriotique ukrainien.
Слава Україна! Зажурилася!
Et il a fait le show, une façon pour lui de rendre hommage à son pays. Et pendant ses 30 minutes de conférence de presse, Usyk s'est seulement exprimé en ukrainien, devenu sa seule et unique langue.
Et c'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, hein, Alexander Usyk combattait les forces russes.
Je m'adresse au peuple de Russie. Si vous nous considérez comme des frères, ne vous battez pas avec nous. Arrêtez cette guerre. Asseyez-vous et négociez. Nous devons parler et tout arrêter.
Cette vidéo date du 26 février, publiée sur son compte Instagram, deux jours après le début de l'invasion russe. Usyk était retourné à Kiev pour prendre les armes et son dernier combat de boxe, c'était il y a un an quasiment, en septembre dernier, face à Anthony Joshua, justement. Usyk l'avait battu au point. C'est donc la revanche entre les deux hommes. Après les treillis militaires et les armes à la main, Alexander Usyk, champion du monde et champion olympique des poids lourds, signe son grand retour. Depuis fin mars, il a pu quitter son pays pour s'entraîner, presque à la demande finalement des Ukrainiens. C'est ce qu'a expliqué son manager Alexander Kasiouk hier en conférence de presse.
À chaque conversation, il entendait des mots de soutien et de bénédiction pour faire ce combat. Les gens voulaient qu'il se batte, qu'il gagne. Ils veulent que le drapeau ukrainien soit hissé et que l'hymne ukrainien soit entendu dans toute la planète.
Et d'ailleurs, son combat pourra être suivi par tous ses fans en Ukraine. Il sera diffusé gratuitement à la télévision.
Ouais, c'est un combat qui va être très suivi et très fort en symbole samedi, hein, ce combat. De
samedi soir.
Merci, Léna Marjac. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. 7h30 sur RMC et sur RMC Story. Tout de suite, l'info avec Océane Théard. Bonjour Océane.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Les maraîchers payent les conséquences des intempéries. Plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires ont volé en quelques minutes pour un producteur à cause d'une averse de grêlons sur sa serre. L'enquête se poursuit dans l'affaire de la mort d'un jeune Afghan tué par balle à Colmar, mais toujours aucune interpellation. Et enfin, un beau bilan pour les nageuses et les nageurs tricolores. Ils repartent de ces championnats d'Europe avec 13 médailles du jamais vu en 10 ans dans cette compétition.
Deux jours d'intempéries, on le disait, on commence à voir la fin de cet épisode orageux. Il a fait quelques dégâts sur son passage.
Oui, et ce matin, un millier de foyers sont toujours privés d'électricité dans l'Ain et dans la Loire. Le courant devrait revenir dans la matinée. Des orages qui ont également touché le département du Var avec des vents forts, des pluies diluviennes et des grêlons. Une catastrophe pour les producteurs agricoles. C'est le cas à hier où de nombreux maraîchers ont été touchés par la grêle. Kevin Gasser.
En seulement 5 minutes hier matin, les grêlons ont ravagé les 2,5 hectares de serres agricoles de Loris Abatiello, producteur hiérois.
On a 4 groupes de serres. Je suis monté sur les toitures pour un peu, on va dire, faire un recensement au niveau des vitres. Je pense qu'on doit être autour des 2000 à 3000 vitres cassées.
Et ces cultures sont également touchées.
Là, c'est une culture de poivrons. Avec les brisures de verre, tout le tuteurage, il a lâché. Donc on va espérer, entre guillemets, les récupérer, même s'il va avoir énormément de casse. Là, c'est 200 ou 300 000 euros minimum de chiffre d'affaires qui s'envolent. Espace de 5 minutes.
Hier, le maire de la commune, Jean-Pierre Girand, a visité une dizaine d'exploitations sinistrées.
Je prends l'exemple d'un très gros horticulteur. Il a perdu 40% de ses récoltes et une jeune maraîchère a perdu la totalité de ses productions de patates douces, de courgettes et de salades.
L'élu a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Mais il y a des risques qui ne sont pas assurés et notamment peu d'agriculteurs sont assurés contre le risque de grêle.
Selon une estimation de la Société du marché aux fleurs d'hier, la profession horticole du département devrait perdre 20% de son chiffre d'affaires.
Le reportage de Kevin Gasser pour RMC.
7h33, l'enquête continue à Colmar après le tir mortel qui a tué un Afghan de 27 ans dimanche dernier.
La traque du tireur continue. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a pourtant assuré que tous les moyens étaient mis en œuvre pour l'interpeller. Une unité d'élite des CRS, la CRS 8, est sur place dans le quartier de l'Europe afin de garantir le calme et de prévenir tout rodéo ou débordement. Alors comment se déroule l'enquête, Maxime Lévy?
4 jours que les enquêteurs de la police judiciaire de Mulhouse sont à la recherche du tireur et de ses complices. Les policiers ont bien sûr à leur disposition le scooter laissé sur place par l'un des suspects. Il y a également les images de vidéosurveillance du quartier. Une caméra est présente sur le rond-point situé à quelques mètres seulement du lieu du drame. Enfin, de nombreux témoins, des amis, des membres de la famille de la victime ont assisté à la scène. Des auditions précieuses pour les enquêteurs. Autant d'éléments qui rapprochent la police du tireur et de ses complices. Mais depuis dimanche, les proches d'Abdoul commencent à trouver le temps long.
En fait, il y a des caméras, ils ont des preuves, ils ont tout en fait. On veut que eux, ils attrapent plus vite la personne qui a tiré sur lui en fait, on veut juste la personne.
Est-ce que c'est normal? Là, il a tué l'Abdoul, elle est décédée. À cause de qui?
Les proches de la victime l'assurent, tant que le tireur n'aura pas été arrêté, des manifestations sont prévues dans la région, mais aussi à Paris.
Et on en débat ce matin sur RMC. Quelle solution face à ces rodéos urbains à répétition et qui parfois tournent mal, on l'a vu ces derniers jours. La répression annoncée par le gouvernement, ok, est-elle la seule solution? Il y a des alternatives, nous dirons nos invités juste après le journal, et notamment Mehdi Bensafi qui est le responsable d'une association du côté de Vaux-en-Velin qui organise des stages de motocross pour essayer de canaliser ces jeunes. Il nous racontera, il nous dira surtout si ça fonctionne.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se rend en Ukraine aujourd'hui. Il doit rencontrer le président Zelensky. Au programme des discussions, la situation de la centrale nucléaire de Zaporijjia, sous contrôle russe depuis bientôt 6 mois. Un déplacement officiel sur fond de nouvelles attaques dans le pays. Un bombardier a détruit un immeuble de la ville de Kharkiv, deuxième ville du pays hier. Le bilan humain est pour l'instant de 6 morts et 16 blessés, d'après le maire de la ville. La santé de nos enfants vaut plus que des vaccins expérimentaux. Voilà ce que l'on peut lire sur un des 9 panneaux installés dans les rues de Toulouse depuis plusieurs semaines. Derrière ces installations, 2 associations anti-vaccins. Et si les professionnels de santé dénoncent une campagne de désinformation, les habitants, eux, sont partagés. Émeric Dantreuil et les équipes de BFM TV.
À Toulouse, le long d'un axe fréquenté, un grand panneau publicitaire s'offre à la vue des passants. Dessus, un message.
Vaccination Covid, un effet secondaire grave sur 100. Et si c'était votre enfant?
Pour l'instant, la mairie de la ville en a recensé 9. Pour Anna, une passante, rien de choquant. Roger, lui, est un peu plus gêné.
Ça m'a surpris un peu. C'est la première fois que je vois un panneau comme ça. Ça demande à être vérifié. Est-ce que vraiment il y a un effet secondaire grave sur 100? Qu'est-ce que c'est que cet effet secondaire? Je n'en sais rien.
Certains finissent quand même par douter, comme Audrey qui rentre chez elle avec sa petite fille.
On ne sait pas s'il faut s'y fier. On savait pas forcément grand chose au moment où il a fallu se faire vacciner. Ça pose question.
À l'origine de ces affiches, 2 organisations anti-vaccination. Pour le docteur Jean-Christophe Calme, président du groupe URPS des médecins libéraux d'Occitanie, c'est tout simplement de la désinformation.
On peut prendre des chiffres et dire tout et n'importe quoi, mais ça correspond absolument à rien. Si un Français sur 100 s'était retrouvé à l'hôpital, ça ne serait pas passé inaperçu. Quand la liberté d'expression va à l'encontre du bien public, ça nécessite une action des pouvoirs publics locaux pour interdire cet affichage.
D'après la mairie, il est impossible de retirer légalement ces affiches qui sont collées à des panneaux d'une société privée. Seule la constatation d'un trouble à l'ordre public pourrait justifier un tel retrait.
Du sport enfin, une belle moisson au championnat d'Europe de natation. Les nageurs tricolores rentrent de Rome avec 13 médailles, dont 3 nouvelles médailles hier. Et Julien Richard, cela faisait plus de 10 ans que la natation française n'avait plus affiché une telle santé dans un championnat d'Europe.
Oui, avec une nouvelle force collective illustrée par 5 médailles en relais, dont l'inattendu 4x100 mètres 4 nages féminin hier soir.
Nous, on vient de faire un gros hold-up.
Beryl Gastaldello et Pauline Maillot.
Ça montre que la force de l'équipe derrière, ça fait pousser des ailes.
Moi, c'était un rêve d'être dans cette équipe. On a vu à Budapest le nombre de médailles, le nombre de finales. Cette ambiance, cet engouement qu'il y a, c'est juste à l'image de la force de l'équipe, quoi.
Une équipe jeune qui a donné du peps au capitaine Damien Joly. L'ancien 30 ans, il a décroché sa première médaille internationale sur le 1500 mètres.
Ça met beaucoup de fraîcheur dans l'équipe. C'est super d'avoir cette atmosphère-là. Ils ont cette envie-là, ils ont cette hargne et ça se partage. Et plus les résultats et l'émulation, on a vraiment une super équipe.
La nouvelle dynamique aperçue au Mondiaux de Budapest en juin, 8 médailles se confirment à Rome. Julien Issoulier, le directeur technique national.
La dynamique autour de l'équipe est bonne et dans l'équipe est très bonne. On a des athlètes qui savent pourquoi ils sont là. Moi, je vois des comportements quand même changer. Si toutes les planètes s'alignent bien, on peut faire fort en fait. Il y a un vrai potentiel. On a toujours eu une natation qui était focalisée sur un petit nombre d'athlètes qui ont réussi leurs exploits. Et là, je pense qu'il y a une base qui est un peu plus large.
Un été qui ouvre des perspectives pour la natation française en vue des Jeux de Paris en 2024.
Une belle soirée du côté de l'athlétisme français également avec 4 médailles au total, dont 3 remportées hier soir. L'argent pour Pascal Martineau Lagarde, le bronze pour Juste Kouaoumaté en 110 mètres haies et le bronze pour Jean-Marc Ponvienne en triple saut, la première médaille européenne pour l'athlète à 28 ans.
Les courses à 7h38, le quintet c'est sur l'hippodrome de Deauville ce soir, 20h15.
Et le pronostic de la Dream Team des courses RMC, sa favorite c'est le numéro 3 au de son outsider, c'est le numéro 8 Abondant, le 3 et le 8. La course du quintet c'est à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Océane Théard sur RMC, 7h38.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre, 2 invités pour nous parler ce matin des rodéos pour lutter contre ces dangers et les nuisances qu'ils produisent. Le gouvernement veut davantage de contrôle, mais des alternatives existent. Des stages de sensibilisation pour les jeunes, c'est la solution mise en avant ce matin par Mehdi Bensafi. Il dirige une association dans la banlieue lyonnaise. Il va nous en parler. Pourquoi pas, nous dira Sébastien Poirier, président de la Fédération française de motocyclisme. Et vous, votre avis? On vous attend au 32-16 et sur Direct Studio.
RMC, Apolline Matin.
Justement, ce matin, ce qui vous fait réagir sur Direct Studio, ce sont les rodéos urbains qui se multiplient cet été. Il y en a de plus en plus, même à Saint-Tropez, nous dit Marc. Ici à Saint-Tropez, nous avons des rodéos urbains dans les petites rues étroites, mais les jeunes n'ont absolument pas peur de la police. Les nuisances continuent et sans aucune verbalisation, nous dit-il. Il y en a même dans notre petit village des jeunes qui font des rodéos la nuit. Ça commence à me gaver, nous dit Dom. Azeu témoigne aussi sur Direct Studio. J'ai 39 ans, j'ai toujours connu les rodéos, que ce soit en ville ou à la campagne. Il y a toujours eu des rassemblements et des courses de mobylette en scooter. La différence, c'est que tout va plus vite. Il y a moins de respect. Il faut faire quelque chose, nous dit-il. Domenico lui affirme qu'il ne pense pas que la prévention puisse fonctionner. Mais de qui se moque-t-on, nous écrit-il. Faire de la prévention et des stages avec de l'argent public, avec l'argent du contribuable, pour des jeunes qui n'en ont rien à faire. Il faut de véritables sanctions, écrit-il sur Direct Studio. Vous continuez à réagir à la fois sur l'appli RMC et au 32-16. On vous attend.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h42 sur RMC et RMC.
L'invité du jour.
Alors, quelle solution face au fléau des rodéos urbains? On se pose la question ce matin sur RMC et je vous attends pour en débattre au 32-16 sur l'application RMC. Hier soir, Gérald Darmanin a confirmé un renforcement des contrôles policiers. Est-ce suffisant pour endiguer le phénomène? La police est-elle démunie? Faut-il aussi des politiques de prévention? Bien, c'est ce que vont nous dire nos deux invités ce matin. Sébastien Poirier, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre en direct dans le studio d'RMC. Vous présidez la Fédération française de motocyclisme et nous sommes en ligne avec Mehdi Ben Safi. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'association Synergie Family en région Rhône-Alpes. Vous intervenez notamment dans les quartiers à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Votre parti pris à tous les deux, finalement, c'est de dire que la répression ne suffit pas, qu'il faut aussi proposer des alternatives. Mehdi Ben Safi, expliquez-nous d'abord ce que vous avez tenté, ce que vous essayez de faire, vous, dans les quartiers.
Alors, bien évidemment, nous avons observé, comme tout le monde, hein, ces rodéos urbains se multiplier. Et nous, la réflexion de cette initiative qu'on a mis en place l'année dernière de manière expérimentale, elle vient tout simplement d'une réflexion suite à un drame qui a eu lieu à Vaux-en-Velin il y a maintenant quelques années. Et puis derrière, une fois que l'émotion est passée et que la répression continuait et que finalement on continuait à avoir ce phénomène, on a voulu réfléchir en se disant que quelque part, il fallait pouvoir essayer de nouer le dialogue avec ces jeunes et essayer d'abord peut-être de comprendre le phénomène et comprendre le profil de ces jeunes. Alors, on a décidé tout simplement d'aller les voir et de leur demander ce qu'il en était. Et clairement, leur message, c'était « Oui, mais où est-ce que vous voulez qu'on en fasse ?» Alors, finalement, nous, on s'est dit « Ben, répondons à cet argument. Proposons-leur de venir, de les emmener sur des terrains homologués. » Alors, tous les jeunes ne sont pas sensibles à l'alternative, hein, bien évidemment. Mais finalement, aujourd'hui, en tout cas plutôt sur l'expérimentation de l'année dernière, on a touché, on a créé une appli, on a été sur Snap parce que c'est leur moyen de communication. Et finalement, on a réussi à toucher plus de 250 personnes qui se sont inscrites et plus de 70 jeunes ont été avec nous sur les terrains.
C'est quoi ces terrains homologués? Vous les emmenez où?
Alors, on les emmène sur des circuits qui proposent justement de la motocross, encadrés par des professionnels, pour qu'ils puissent découvrir la réelle motocross et pas le cross bitume qui, finalement, faire de la roue arrière dans l'espace public proche des jardins d'enfants, c'est quelque chose d'abord d'illégal, mais c'est surtout très dangereux pour les riverains, mais aussi pour les jeunes eux-mêmes. Et finalement, quand ils commencent à découvrir ce qu'est la réelle pratique sportive de motocross, avec des professionnels qui vous donnent des conseils sur comment maîtriser l'engin, mais sur des circuits avec des sauts de 10 mètres, de long de 40 mètres, ils découvrent une autre adrénaline. Et finalement,
ça fonctionne ? Ça fonctionne ? Ensuite, vous avez moins de rodéos en ville ?
Alors moi, je vais pas répondre à la question est-ce que ça fonctionne, j'ai bien entendu, mais par contre, ce sur quoi je vais vous répondre, c'est qu'à partir du moment où un jeune est dans un quartier, il a 13-14 ans et qui regarde un autre qui a 18 ans qui est sur une moto en train de faire de la roue arrière, il y a une espèce de mécanisme de mimétisme qui se met en place, et finalement, si on n'a rien à côté qui va permettre de lui donner un choix, eh ben en fait, on va jamais rompre ce cycle-là. Et c'est pour ça que je vous dis, je vais répondre plutôt à la question, est-ce que ça marche parce qu'on a une alternative et on a un choix, oui, ça fonctionne. À partir du moment où on a plus de 450 fiches aujourd'hui, parce que l'expérimentation continue cette année, on a 400 inscriptions de jeunes qui manifestent l'envie de venir pratiquer avec nous. Ça veut dire que déjà, il y a 450 jeunes qui... Alors, c'est pas 450 jeunes en moins, mais en tout cas, c'est 450 jeunes qui connaissent une alternative et pour certains, vendent leur moto et restent avec nous dans ce dispositif.
Essayez de canaliser les choses, Mehdi Ben Safi. Vous restez avec nous, Sébastien Poirier, président de la Fédération française de motocyclisme. Vous travaillez, je crois, ensemble. Vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut plus de terrain, plus d'alternatives ?
Bien sûr, je crois que l'exemple qui a été développé à Vaux-en-Velin est un très bel exemple. C'est-à-dire qu'on est dans la répression, il faut un volet répressif fort parce qu'il y a des comportements qui doivent être sanctionnés, mais à côté de ça, il faut aussi offrir des perspectives. Et parmi tous les jeunes qui aujourd'hui font des urbains, il y a évidemment des délinquants. Hein, qui peut-être ont volé des motos et nous aujourd'hui on a un souci avec nos licenciés parce qu'il y a beaucoup de vols de motos utilisés sur des compétitions, donc ça c'est un vrai sujet, mais à côté de cela il y a aussi des vrais jeunes qui aiment la moto, ont envie de faire de la moto et qui ne savent pas où en faire, et je crois que nous on a eu l'occasion d'être associés à ce projet à Vaux-en-Velin. C'est un projet qui est parti d'une association locale qui se veut un projet constructif, pédagogique, et au final c'est dans le temps que ça s'inscrit. Dans les années 70 on avait des rodéos sauvages également sur Rungis tous les vendredis soirs. On a même des courses sauvages qui étaient organisées. À l'époque, le gouvernement a fait le choix de créer un site de pratique dédié en région parisienne, qui est le circuit Carole, avec une prescription sociale qui consiste à ouvrir ce circuit de vitesse un week-end sur deux à tous les pilotes de la région, et ça fonctionne. Donc il y a des réponses. À l'époque, on a trouvé cette réponse.
Ce que vous voulez dire, c'est que c'est complémentaire.
Il y a un volet répressif. Je crois qu'il faut absolument pas se voiler la face là-dessus. Il faut être très strict par rapport à ce qui se fait, par rapport à la mise en danger de la vie des résidents de ces quartiers. Mais à côté de ça, il faut aussi offrir des perspectives, offrir des sites de pratique de proximité pour faire en sorte que l'on puisse aussi avoir un discours construit auprès de ces jeunes.
On va aller au 32-16. Il y a beaucoup de réactions ce matin, et je suis sûr que ce que vous êtes en train de nous dire va faire beaucoup réagir les auditeurs d'RMC. Serge est avec nous depuis Marseille. Bonjour Serge.
Oui, bonjour.
Marseille, ville bon. Où on sait que ces rodéos sont nombreux. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée, de cette idée d'essayer de canaliser les choses, au moins en offrant des alternatives ?
Ben écoutez, je pense, je viens d'entendre ces messieurs qui sont pleins de bonne volonté, mais ils vont réussir peut-être à former 1 ou 2% de ces jeunes. Le reste, ils n'en ont rien à faire. Ils sont sans foi ni loi. Je veux dire, ça n'arrêtera pas les rodéos. Au contraire, depuis qu'on en parle à la télé, depuis qu'il y a des accidents, le phénomène s'est amplifié dans toutes les villes de France. Hein, on le voit. Voilà.
Et une surenchère.
Exactement, il y a une surenchère. L'air de dire, nous on fait ce qu'on veut. Voilà.
Ouais.
Et ensuite, la répression, c'est sûr qu'il faut confisquer, il faut punir. Il faut
pour
punir
vous,
aussi.
C'est
et
l'essentiel.
Puis, il faut surtout, je pense, avant de former ces jeunes, éduquer les parents. Je pense que c'est une chose, éduquer les parents, pour qu'eux-mêmes puissent éduquer leurs enfants.
Ouais. On va laisser répondre Mehdi Ben Safi, qui est toujours avec nous depuis la région lyonnaise. Finalement, vous êtes plein de bonne volonté, nous dit Serge, mais il estime que ça ne sera jamais suffisant. Est-ce que dans l'eau, il n'y en a pas aussi beaucoup qui cherchent précisément à braver l'interdit, précisément à jouer les perturbateurs aussi pour amuser les réseaux sociaux et un peu amuser la galerie dans le quartier ? Cela, ça ne va pas les intéresser d'aller sur un quartier officiel, sur un circuit officiel ?
Quelque part, Serge a raison. On n'arrivera pas à séduire tout le monde avec cette alternative. D'ailleurs, l'objectif n'est pas de séduire tout le monde. L'objectif, il est de séduire les passionnés de moto ou alors les curieux. Les autres, on l'a déjà évoqué, il y a la répression et la répression doit continuer à exister, doit se muscler aussi sur la question du nombre de contrôles, de confiscation des motos. Mais par contre, moi, je suis un peu plus optimiste dans la mesure où, effectivement, c'est pas que la proposition de stage, il y a tout ce qui va avec derrière. On parle de roues arrière, de cross bitume, c'est une mode, c'est un phénomène. Et ben aujourd'hui, pourquoi nous on a aussi fait le choix d'être sur les réseaux sociaux, sur Snap, avec des campagnes de vidéos, des choses, contacter des rappeurs célèbres, parce qu'il y a une culture en fait à casser.
Vous reprenez leur code.
Oui, exactement. Il y a un phénomène de mode à casser, de manière, je sais pas de quelle génération on est tous, mais finalement, comme la cigarette à un moment donné était devenue has-been, parce que il y a eu toute une campagne autour et il y a eu aussi des messages qui sont passés. Et puis sur la question du cross-bitume, en fait, c'est à nous, quand je dis à nous, c'est toutes les initiatives qui se mettront en place, de rendre en fait le cross-bitume complètement has-been. Et la solution, ou en tout cas ce changement de culture, viendra pas des adultes ou alors des institutions, elle peut venir que de la jeunesse. Il n'y a qu'au moment où un jeune de 14 ans va dire « Mais qu'est-ce que tu nous fais avec ta roue arrière ? Mais ça n'a rien à foutre sur une rue. » À partir du moment où on aura réussi à mettre cette idée dans la tête des jeunes, on commencera à avoir un réel changement des comportements.
Merci.
Après, il y aura toujours de la délinquance.
Merci à vous, Mehdi Ben Safi. D'un mot très rapide, Sébastien Poirier, vous êtes en train de développer d'autres initiatives comme ça ailleurs en France ?
Oui, alors on essaie de nous travailler avec les associations locales. Juste pour venir sur Marseille. Sur Marseille, il y avait un circuit homologué dans le 11e arrondissement, là où le jeune a été tué. Ce circuit, aujourd'hui, n'est plus homologué. La volonté de la mairie de Marseille, de la nouvelle équipe, c'est justement de s'en débarrasser pour lui offrir une autre destination. Je pense que c'est une erreur fondamentale parce qu'on n'a aucune réponse à proposer à ces jeunes de Marseille, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et encore une fois, si on réussit à récupérer 15, 20, 30% de ces jeunes, eh bien, c'est toujours ça de gagner.
Merci beaucoup. Merci d'être venu ce matin, Sébastien Poiré, président de la Fédération française de motocyclisme. Je remercie également Mehdi Ben Safi, association Synergie Family en région Rhône-Alpes, 3216, si ça vous fait réagir, et l'application RMC. On continue d'en parler jusqu'à 9h sur RMC, 7h52.
RMC, 6h-9h.
Apolline Matin.
À suivre sur RMC, place à la culture. Et cette semaine, Amandine Réau, ses coups de cœur, ses conseils. Ce matin, elle va nous parler des séries les plus attendues de la rentrée. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
7h56 sur RMC.
Cultivez votre été.
Place à la culture avec Amandine Réau. Bonjour Amandine.
Bonjour.
C'est bientôt la rentrée et c'est aussi la rentrée des séries. Vous nous faites un peu un petit topo ce matin des séries les plus attendues des prochaines semaines.
Allez, on commence par ce qui s'annonce être un événement, la série dérivée du Seigneur des Anneaux. Ça s'appelle Les Anneaux de Pouvoir.
Nous pensions que nos joies jamais ne finiraient. Nous pensions que notre lumière jamais ne s'éteindrait.
Le ciel est étrange.
Et si 5 saisons sont programmées, la première sera diffusée dès le 2 septembre sur Amazon Prime. Et si je parle d'événements, c'est aussi en raison du prix qu'elle a coûté. Amazon a acheté les droits pour, tenez-vous bien, 250 millions de dollars.
Génial, on va replonger dans l'univers du Seigneur des Anneaux. On va aussi replonger dans Game of Thrones, c'est le retour
oui,
de Game
of Thrones. Oui, alors un retour, oui et non, c'est ce qu'on appelle plutôt un préquel des épisodes dont l'action se situe avant celle des épisodes précédents. Game of Thrones, donc c'est une des séries les plus marquantes de ces dernières années. Et je vous donne rendez-vous le 22 août pour la sortie du premier épisode de House of the Dragon. Donc c'est le petit nom de ce préquel et ça sera diffusé sur OCS en France.
Bon voilà, deux blockbusters attendus. Si on est plutôt, c'est carrément. Si on est plutôt série française, qu'est-ce qu'on peut regarder ?
On peut regarder Les Combattantes sur TF1.
Tu veux faire quoi quand tu es à la ligne de front ?
Je viens travailler. J'ai besoin de vous.
C'est une mini-série avec notamment Audrey Fleurot et Sophia Issaidi qui suit le destin de quatre femmes durant la Première Guerre mondiale. Quatre femmes au destin bien différent. Il y a une religieuse, une infirmière, une prostituée, une patronne d'usine. Et Les Combattantes sera donc diffusée à partir du 15 septembre.
Alors, on attend aussi toujours des nouvelles de The Crown. Moi, j'aime beaucoup sur Netflix. Une nouvelle saison arrive, c'est pour quand ?
Oui, c'est ça. Donc, très bon choix. C'est cette série qui retrace, vous savez, la vie de la famille royale britannique. Et la saison 5 est attendue pour le mois de novembre par de nombreux fans comme vous, Sébastien.
Pour le mois de novembre, voilà, la dernière saison, c'était avec Lady Di.
Là, ça sera cette saison, voilà, c'est ça, on va évoquer la mort de Lady Di,
On l'a déjà vu arriver jeune. Amandine Réau, merci beaucoup. Dans un instant, la météo et le journal de 8h.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.